chantait de bon matin quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, bicyclette, bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, Sébastien, et puis Paulette.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre émission Il est l'heure Monseigneur sur Radio G 101.5. Aujourd'hui je suis avec Marc, bonjour Marc.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Josiane.
Hello.
Et nous avons un invité, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. On reçoit aujourd'hui Monsieur Aubert de Habitat et Humanisme.
Bonjour à tous.
Bonjour. Ricardo n'est pas de la partie cette semaine et Jean-Jacques n'était pas disponible non plus. Toutefois il nous a envoyé sa petite chronique, le bien de consommation qui est cette semaine le miel. Voilà. Monsieur Aubert, vous avez une mission aujourd'hui, c'est de découvrir l'année mystère par les chansons et puis par les différents faits qu'on va énoncer les uns et les autres. On commence tout de suite avec une chanson de l'année mystère qui se trouve être une chanson pour Josiane, Elvis Presley. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après la chanson. je vous prie de m'excuser, cher auditeur. Je
ils
me suis fait
pas de t'exécuter.
Voilà. Voilà. Je me suis fait huer en studio. C'était évidemment pas Elvis Presley, mais France Gall avec musique. Monsieur Aubert, ça vous inspire une décennie?
Je dirais fin des années 70, peut-être début des années 80, mais je milite plutôt pour la fin des années 70.
Bon, bah. La tranche est pas mal.
Mmh. C'est bien parti.
C'est bien parti. Alors, aujourd'hui, vous avez été invité par Marc, oui. et merci à vous de vous rendre disponible pour nous parler de Habitat et Humanisme. Moi, c'est une association que je connais de nom, mais on va avoir besoin de vos précisions.
Eh bien, Raphaël, vous êtes comme beaucoup de gens, vous avez entendu parler d'Habitat Humanisme, mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Alors, je vais me payer de quelques mots un peu lourds, mais il faut en parler. Habitat Humanisme, c'est d'abord la dignité de la personne, dans un secteur très particulier, qui est le logement. Aujourd'hui, sans logement, c'est difficile d'avoir une vie digne. C'est très difficile. Vous n'avez pas d'adresse, vous êtes connu de personne. Déjà avec les services administratifs, à qui ils écrivent, ah ben non. Bon, voilà. Donc, premier critère de l'association, c'est d'aider les personnes sans logement à trouver un logement digne. Je précise bien digne. On n'est pas des marchands de sommeil. Et on essaye de leur trouver un logement tout à fait digne. Alors, plutôt dans des quartiers équilibrés, parce que en fait l'objectif ça va être de leur rendre leur dignité et une façon de vivre qui est insérée dans la société. Voilà, donc on vise des quartiers plutôt équilibrés où il n'y a pas de problème particulier qui pourrait à nouveau les fragiliser. Ils le sont déjà assez comme ça. Simplement, l'association dit c'est pas le tout de trouver un toit. On connaît des tas de gens qui ont un toit, mais qui vivent complètement renfermés, sans lien social, et qui ont beaucoup de mal à s'ouvrir, beaucoup de mal à vivre décemment. Donc, ce que propose l'association avec le logement, c'est un accompagnement presque amical. C'est-à-dire que on va les aider, bien entendu, à s'installer dans le logement, on va les aider à découvrir le quartier, on va les aider à régler les éventuels problèmes administratifs qu'ils ont. Ce sont des gens qui ont très faibles ressources, donc dès qu'il y a un bug dans les ressources, c'est une catastrophe. C'est pas gratuit, hein, ce sont des logements qui ont un loyer certes très modeste, mais loyer quand même, donc il faut quand même pouvoir le payer.
Voilà, ça veut dire qu'il y a un accompagnement social avec une inclusion, une intégration, voilà, pour qu'ils redeviennent maîtres de leur vie.
Complètement. Ah bah, vous dites des mots là qui sonnent à mes oreilles. On développe, alors là aussi c'est un peu du jargon social, mais enfin bon, je le dis quand même, on développe ce qu'on appelle le développement du pouvoir d'agir. L'idée derrière ces mots un peu savants, c'est que les personnes qu'on loge et qu'on accompagne retrouvent leur destin en main. C'est-à-dire qu'ils réapprennent, parce que souvent, ils l'ont connu, ils ont connu une galère, et puis c'est le puits sans fond, hein, mais c'est qu'ils reprennent leur destin en main. Et on n'a pas vocation à les garder toute leur vie. Notre souhait, même si on les aime bien et on noue souvent des liens très sympas avec eux, mais c'est qu'ils volent de leurs propres ailes le plus vite possible. Alors on prend le temps qu'il faut. Suivant les cas, ça va durer 6 mois, d'autres ça va durer 5-6 ans.
D'accord.
On les prend comme ils sont, là où ils sont, le jour où on nous les confie.
C'est ce qu'on appelle un habitat solidaire, finalement. Maintenant, effectivement, c'est une question que j'allais vous poser, la durée d'accompagnement et d'occupation des habitants.
On a différentes modalités de logement qui sont liées à des durées, en fait. On a une pension de famille où il y a 18 studios. Donc, studio, ça veut dire logement indépendant, mais c'est un petit collectif. Mais dans cette résidence, il y a une vie collective qui va les aider à recréer des liens sociaux, etc. Et bien là, ils vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y en a quelques-uns qui sont restés 5 ou 6 ans. Il y en a qui, malheureusement, quand il y a eu des grosses galères, sont rattrapés par des problèmes de santé. Ce ne sont pas des personnes qui vont à 80, 90 ans. C'est des gens qui sont touchés sur leur santé. Donc cela, c'est en fonction de leur évolution. Il y en a qui vont rester 2 ans dans cette pension de famille, d'autres qui vont rester 5-6 ans. Et puis, voilà.
Il peut y avoir des familles avec des enfants ?
Non, dans cette résidence, il n'y a que des célibataires, hommes ou femmes. Hein. Actuellement, on doit avoir 13 hommes et 5 femmes. Mais jusqu'ici... Alors, on avait 2 logements pour des couples.
Pour des couples.
Et on n'a jamais eu de couple.
D'accord.
Vous savez, c'est des gens qui viennent de la grande précarité.
Oui. Bien dans le micro.
Ce sont des gens qui viennent de la grande précarité.
Isolé.
Et c'est rare que les couples fonctionnent dans cette précarité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas.
Oui. Mais ça ne dure pas.
Ça ne se montre pas.
Ils ne veulent pas vivre ensemble.
Non, ou ils ne peuvent pas. Voilà, donc ce sont des personnes seules.
D'accord.
Mais qui ont, pour la plupart, une famille. Hein, qui. Et ben quand vous êtes au fond du trou, la famille, ben elle fait ce qu'elle peut, mais elle peut s'éloigner. Quoi. Voilà.
Et pour être un peu plus concret, sans être indiscret, les accidentés de la vie que vous rencontrez, c'est quel type de mésaventures qu'ils ont vécu ? Est-ce que c'est du divorce ? Est-ce que c'est du chômage ? Est-ce que c'est de l'addiction ?
Il y a tout. Il y a une rupture affective, il y a une rupture professionnelle, un chômage, il y a un problème de santé, on a en principe un régime de protection sociale qui nous met à l'abri, au moins en termes de ressources, des questions de santé. Malheureusement, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y en a qui se retrouvent sans emploi parce que ils ont eu un problème de santé incompatible avec l'emploi qu'ils occupaient. Voilà. Donc ils se retrouvent d'abord dans leur logement, sans revenus, donc très vite c'est l'expulsion ou ils s'en vont, quoi. Voilà. Donc c'est la majorité des cas. Et puis dernier cas qui est pas le moindre, l'isolement social complet. C'est-à-dire que quand vous êtes tout seul dans votre précarité, il y a un moment, vous avez beau être costaud, vous glissez vers l'isolement, vers la rue pour certains. Voilà. Et, bon, on ne sait pas toujours leur histoire. Et puis à la limite, ça ne nous regarde pas. Nous, on les prend comme ils sont. Le jour où on les accueille, le jour où les services sociaux nous les envoient. Les services sociaux ont détecté chez eux un ressort, une flamme encore vive. Et ils pensent qu'on va être capable, nous, en quelques mois ou quelques années, de leur redonner l'énergie, faire durer et renforcer cette flamme qui va leur permettre de retrouver une vie digne, une vie décente. Quoi.
Et quels sont les acteurs de votre association ? Il y a des personnels salariés, il y a des bénévoles, comment ça se structure ?
Alors, notre association est fondée sur le bénévolat. Les bras armés, si on peut dire, sont des bénévoles. On est actuellement une cinquantaine de bénévoles. Alors, je vais encore utiliser du jargon un peu technique. On mesure notre force de frappe, si on peut dire, en équivalent temps plein. Entreprises, on connaît ça. Nos bénévoles représentent entre 5 et 6 équivalents temps plein.
D'accord.
Donc, c'est. Voilà. Alors, au fur et à mesure que l'association s'est développée, nous ne sommes que des bénévoles, donc, par nature, pas très compétents dans les domaines dans lesquels on agit. Donc, on a éprouvé le besoin de recruter des salariés. Nous avons des accords avec le département pour une part, l'État via la préfecture pour une autre part, qui nous aident à financer ces emplois salariés. Voilà, donc actuellement, nous avons 5 salariés.
D'accord.
Voilà, qui sont, pour 4 d'entre eux, des profils de travailleurs sociaux, qui nous apportent la compétence que nos bénévoles n'ont pas, même si on les forme. On forme nos bénévoles, alors au rudiment de l'accueil social. Enfin, les travailleurs sociaux ont fait 2, 4, 5 ans d'études. Nous, c'est des formations d'une journée, il y en a 2 ou 3. On va pas, c'est pas comparable. Quoi.
Vous avez des psychologues aussi ?
Alors, on travaille avec. Alors, on a eu pendant longtemps une bénévole psychologue qui nous apportait beaucoup. L'âge venant, elle a arrêté cette mission-là. Donc, depuis, on a pris des psychologues qui sont des professionnels et qu'on rémunère pour ça. Ils viennent nous voir. Alors, ça dépend des fréquences, hein, mais dans le domaine du social. Il y a une technique qui est très pratiquée par les professionnels qui s'appelle l'analyse de la pratique. Alors ça fait un peu jargon psy, mais en réalité c'est un psychologue avec une équipe de nos bénévoles, et les bénévoles, c'est des petits groupes, hein, de 5, 6, 7 personnes, vont dire la difficulté qu'ils peuvent rencontrer pour exercer leur mission. Notre souhait, c'est que il y a parfois des situations pas commodes, mais c'est que ça les empêche pas de dormir quand même, parce que on tient à la santé de nos bénévoles. Ils donnent déjà beaucoup, hein, ils ont un une envie d'aider les autres qui est sans doute largement...
Un investissement total.
Ah oui, mais qui est largement répandu, mais parce qu'on en a encore, qui viennent de dire, mais moi, je ne sais pas faire du tout ça, je ne sais pas faire. Ben, on leur dit, vous allez commencer doucement. Bon,
souvent, on ne sait pas qu'on sait faire.
Voilà, ouais. Exactement. On ne sait pas qu'on sait faire, et donc, ils commencent. Alors, l'accompagnement se fait par deux personnes, donc on met toujours un débutant avec un bénévole expérimenté, et petit à petit, moi j'ai le souvenir de quelques bénévoles qui sont maintenant des piliers de l'association, qui au début, quand je les ai reçus pour voir quel bénévolat ils pourraient exercer, non, mission sociale, c'est pas du tout mon domaine, j'ai jamais exercé là-dedans. Et maintenant, faut voir comment ils sont investis, quoi.
Alors justement, l'engagement bénévole, on parle d'un affaiblissement avec le contexte de la crise sanitaire. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous avez des personnes que vous recherchez actuellement, des profils que vous recherchez?
Alors, d'une part, la mission sociale d'accompagnement des personnes qu'on loge ne peut pas s'arrêter avec la pandémie. C'est pas possible. Donc, on a quand même mis nos salariés en partie en télétravail, mais d'elles-mêmes, elles ont proposé de venir une demi-journée de temps en temps quand même, par exemple à la pension de famille où nous avons deux salariés. Elles essayaient d'être, pendant tous les confinements, d'être présentes chaque matin. Bon. Faut se souvenir du début de la pandémie. On ne savait pas où on allait, on ne savait rien. Et elles nous ont avoué après, alors elles avaient toutes les protections, tout ce qu'il fallait, mais qu'elles y allaient la peur au ventre.
Ouais, oui. Mais ça c'est important de le dire, parce que c'est vrai que...
Moi j'étais admiratif, ce sont des femmes jeunes. Bravo, elles ont... Alors les bénévoles, on leur a laissé le choix, parce que c'est pareil, on a quelques bénévoles qui ne sont pas tout jeunes, et à l'époque, on disait personnes âgées, personnes vulnérables à la Covid. Donc on leur a dit, vous êtes très libres. Vous voulez rester chez vous, vous voulez pas... vous vous mettez entre parenthèses pendant quelques mois, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, libre à vous. Ce qu'on a observé, c'est que très très peu ont pris cette option-là. D'accord. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes ou les familles qu'on accompagne? Et donc, on s'est adapté. Quand il y avait un besoin de rencontrer... Je prends un exemple. Des droits au RSA, ils ne s'arrêtent pas pendant la pandémie. Et si le bon papier n'est pas renvoyé, ils perdent leur droit au RSA. Donc, s'il y avait des papiers à remplir, etc., les bénévoles et les résidents se retrouvaient au pied de l'immeuble.
Alors, on va faire une toute petite pause musicale, et puis je vais vous poser une question à laquelle on répondra après pour un peu de suspense. C'est à l'échelle départementale, combien de bénéficiaires vous accompagnez? Voilà. On écoute tout de suite la petite chanson pour Josiane, cette fois j'espère que c'est Elvis. À tout de suite.
Time goes
Donc, ouf, c'était bien Elvis Presley, voilà.
Tu m'as donné une petite léchouille.
Donc, Monsieur Aubert, effectivement, sur le département, combien de personnes vous pouvez accompagner aujourd'hui en termes de capacité de logement? Est-ce que vous êtes plein ou que vous avez encore des besoins à satisfaire?
Nous avons une soixantaine de logements au total, y compris les 18 logements de la pension de famille. Nous sommes présents uniquement sur l'agglomération d'Angers. Nous avons fait des tentatives sur les autres villes relativement importantes du département, Cholet, Saumur, Segré. Il y a des endroits où il y a l'équivalent. Donc on ne va pas aller, s'il y a des gens qui font déjà l'affaire, et puis on ne va pas aller se concurrencer, enfin ça n'a pas de sens quoi. Hein, bon. Donc on essaye de s'implanter dans le Segré, hein, mais pour démarrer bien, il faut un noyau de 5 à 10 bénévoles, et pour l'instant on ne les a pas. Donc pour l'instant on est sur l'agglomération d'Angers, donc une soixantaine de logements. Il y a une liste, on a été sollicité il n'y a pas très longtemps par les pouvoirs publics. Il y a une liste d'attente de plusieurs dizaines de personnes. On n'est pas les seuls à faire cette activité-là. Sur Angers, il y a d'autres associations qui le font. Mais il y a une liste d'attente. Donc, chaque fois, tous nos logements sont pleins. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va, quelle qu'en soit la raison,
on fait un remplacement rapide.
Il n'y a aucun problème. On passe par un organisme public qui s'appelle le Service d'intégration, d'accueil et d'orientation, le SIAO. Qui est sous le mode associatif mais public quoi, c'est sous l'égide de la préfecture, qui a une vision à la fois des besoins en logements sociaux et des logements sociaux disponibles. Voilà. Donc en fonction du profil du dossier qu'on va leur passer, si c'est un dossier qui pose pas de problème particulier, ça va être orienté vers les bailleurs sociaux et les sociétés d'HLM. Plus ça va être un petit peu plus compliqué, et ben, ils vont viser souvent des associations qui prennent le relais en fonction du profil de la personne qu'on nous envoie. Quand il y a des cas compliqués, notamment des pathologies psychiques par exemple, ça va être des associations qui sont qu'avec des salariés, des professionnels du métier, parce que c'est pas n'importe qui peut.
La situation l'exige.
Voilà, voilà. Voilà. Donc on dit voilà, on a un logement de libre, orientez-nous deux ou trois dossiers. Voilà. Donc ils nous envoient deux ou trois dossiers. On regarde si c'est bien adapté. Pour la pension de famille, par exemple, on fait visiter la pension de famille à la personne, parce qu'il y a des personnes qui s'adaptent pas bien, qui s'adapteraient pas bien à cette vie collective. Il y en a qui veulent rester solitaires. Bon, il faut trouver une autre solution. Et à partir de là, ça va très vite. Hein, on va en quelques jours, on choisit un des dossiers qu'on nous envoie, donc avec derrière quand même une personne, et on va l'intégrer. Voilà.
Alors, vous disiez que vous travaillez en réseau, ça veut dire que chaque organisation est concentrée sur un type de public. Je vais penser par exemple aux migrants, je vais penser aux femmes battues.
Oui, alors nous clairement, on est dans de l'insertion, donc on n'est pas dans du logement d'urgence. En gros, les deux champs du logement de ce type-là, il y a l'urgence et l'insertion. L'urgence, c'est le 115. Les gens téléphonent chaque matin pour essayer de trouver un endroit pour dormir le soir. Nous, c'est pas ça du tout. Il y a aussi des manques, des déficits de ce côté-là. Nous, on est dans l'insertion, donc on s'installe dans la durée. Les agréments qu'on a de l'État, parce que pour exercer une mission sociale, il faut quand même un agrément de l'État que nous avons pour 5 ans. Les conventions qu'on a avec le département ou avec l'État imposent que nous ayons des personnes régularisées, c'est-à-dire qui ont des papiers.
Oui.
Bon. Alors on a. D'anciens migrants, anciens réfugiés, enfin le terme est assez générique.
Régularisés,
voilà. Ouais. Des gens qui sont en France depuis quelques mois, quelques années, qui ont obtenu de l'administration un permis de séjour. Et donc, à ce moment-là, on est parfaitement habilité à les accueillir. Ce qui, entre nous, d'ailleurs, pose parfois des petit souci de langue, parce que on n'est pas des spécialistes du travail social, mais on n'est pas polyglotte non plus. Et de temps en temps, alors on cherche des interprètes sur Angers, hein, alors avec d'autres associations, on arrive à en trouver. Mais il y a parfois des langues un petit peu plus compliquées.
Plus les dialectes.
Les dialectes, voilà. Et c'est difficile, parce qu'il faut imaginer les personnes qui arrivent comme ça, qui essayent de sortir de leur pays, parce qu'il y a des tas de bonnes raisons pour qu'ils s'en aillent. Et ils connaissent pas la culture, ils connaissent pas l'administration, ils connaissent pas la langue. Mais mettez-vous à leur place, allez dans un pays un peu lointain. Vous vous retrouvez sans maîtriser la langue, sans savoir comment marche l'administration, la monnaie, l'argent, comment ça fonctionne, la banque. Enfin, pour eux, c'est très compliqué. Alors qu'en plus, ils ne maîtrisent pas la langue. Alors, on est en train de relancer une action, on n'est pas les seuls à le faire, pour les encourager fortement à apprendre le français. Il y a des associations qui font des cours de français pour les étrangers.
On en a reçu, l'Institut municipal, je pense.
Et on va durcir. Ça ne sera pas une condition d'accueil. On accueille tout le monde. Mais on va un peu plus insister dès le départ pour que... On va les mettre en contact avec les associations qui le font, parce que on parle de la culture, mais la langue est un élément d'intégration primordial. C'est un passage obligé. Et on se rend compte que certains sont un petit peu réticents, mais ils trouvent que c'est compliqué, quoi. Hein. Ils préfèrent, quand ils se retrouvent à plusieurs d'une même communauté, d'un même pays,
réutiliser leur langage commun.
Ils restent un petit peu dans leur communauté. Et nous, le but, c'est qu'ils s'ouvrent quand même sur la ville. Donc, s'ils ne parlent pas le français, ça va être très compliqué, quoi. Voilà.
Donc, vos candidats, votre recherche de candidats de...
En deux mots, très court.
Alors, on a deux profils sur lesquels, actuellement, on est déficitaire. Les accompagnants, des bénévoles accompagnants, hommes ou femmes. Il n'y a rien besoin de savoir, sinon d'avoir...
Envie d'aider
les autres, quoi. On fait pas ça par devoir, on fait ça parce qu'on a dans le cœur une envie de... c'est des gens à qui on donne une deuxième chance, finalement, hein. Et on a des gens qui ont exercé des métiers complètement différents. Se dire le coup dur, il peut arriver à tout le monde.
Oui.
D'avoir quelqu'un qui vous tend la main, ça peut être très utile. Voilà, donc ils s'engagent chez nous. Donc là, alors comme on fonctionne toujours en binôme, ça consomme du bénévole. Donc là, si on en trouvait entre 5 et 10 pour l'année 2000, ce qui reste de l'année 2021-2022, ça nous aiderait beaucoup, surtout qu'on a des projets d'ouvrir des nouvelles places d'accueil. Donc,
le développement.
Voilà.
Et le second ? Et
alors, le second, c'est plus concret. On a des bénévoles qui, dans les logements, font la maintenance de premier niveau, ce que chacun est supposé faire chez lui. Changer une ampoule, nous, ça nous paraît tellement simple. Mais quand vous ne l'avez jamais fait de votre vie, l'ampoule a claqué, et t'as qu'à en acheter une et puis la changer. Ah oui, mais comment, faut que je démonte le truc. Comment, alors, c'est pas très compliqué. Mais il y en a qui n'ont jamais fait de leur vie. Donc, le bricoleur va le faire la première fois, et puis va leur montrer que c'est peut-être pas très compliqué. Et puis voilà, changer un joint de robinet, une chasse d'eau qui fuit, etc. Voilà, c'est des gestes très simples que chacun fait chez soi. Quand un jour, quelqu'un lui a montré comment le faire. Voilà. Là, on est court actuellement en bénévole. Dès que ça devient plus compliqué, on fait appel à des artisans. Hein. On a d'ailleurs un de nos piliers bénévoles qu'on appelle bricoleur dans notre jargon. C'est un ancien artisan. Et c'est lui qui met le holà. Dès qu'il voit que c'est un peu compliqué, il dit « dadadada ». Moi, je ne veux pas me fâcher avec mes anciens petits camarades. On appelle un artisan. Quoi. Hein, voilà. Donc, on cherche deux ou trois bénévoles bricoleurs. Qui sont expérimentés, enfin qui savent faire, quoi.
Je voulais vous redemander, parmi les personnes hébergées, vous avez une forte proportion d'hommes ou de femmes, ou c'est mixte? Comment ça se...
Alors, dans la pension de famille, il y a plus d'hommes, parce que très souvent, dans la pension de famille, c'est quand même des personnes qui ont connu des grosses galères. Mmh. Et je dirais qu'il y a moins de femmes, parce qu'il y a d'autres structures. SOS Femmes, que vous avez cité tout à l'heure, fait des choses vraiment très très bien. Ils ont aussi quelques logements, etc. Donc, et puis, je ne sais plus qui nous a dit que dans la rue à Angers, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes SDF, mais on ne les voit pas. Elles se cachent parce qu'elles sont quand même très exposées. Beaucoup plus exposées que les hommes. Voilà, donc... alors, en revanche, on a dans les logements en ville qu'on a dans les fameux quartiers équilibrés, ça s'équilibre davantage, peut-être même un peu plus de femmes. On voit monter en puissance un profil qu'on connaissait, mais qui augmente. C'est les femmes seules avec un enfant, quoi. Les mamans solo, ça devient... on se demande si les pouvoirs publics sont bien au fait de cette augmentation, quoi, hein, parce que ce sont des personnes qui vivent avec peu de ressources, qui vivent souvent très renfermés. L'objectif, c'est de protéger l'enfant. Donc tout passe pour l'enfant. Ce sont des gens très, très isolés, quoi, hein, qui ont, et nous, on constate qu'on nous en envoie de plus en plus.
Et ma dernière question avant la pause musicale, c'est de quel âge à quel âge vos accompagnants, vos bénéficiaires, enfin, je ne sais pas comment il faut les appeler d'ailleurs.
Les bénéficiaires.
Les habitants.
Ça, oui, les résidents, mieux. Les locataires, appelons ça comme on veut. Allez, ça va aller de 25 à 60 ans.
D'accord.
Et on voit là aussi arriver quelques jeunes.
Ok. On fait tout de suite une pause musicale et après on vous met à contribution pour redeviner quand même notre année mystère. Vous avez été pas mal tout à l'heure dans la première fourchette d'évaluation. Là, on va écouter Marie-Myriam avec L'enfant et l'oiseau. À tout de suite.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc lit de sang, le sang du poète qui en chante.
Marie-Myriam, alors cette année mystère, on a parlé tout à l'heure, dans les années 70 ou 80, vous n'étiez pas tout à fait certain. Est-ce que ça vous
a... Mais là, il est remonté au-dessus de 80.
Ah bon ?
Oui. Il y a eu quelque chose...
On lui dit tout de suite qu'il se trompe alors.
Elvis serait né après 80 alors. Ah bah alors là...
Non, c'était les années 70.
Ah,
c'était 70. Les années 70. Les uns et les autres, vous aviez noté, vous,
c'est
des
pas
événements.
C'est 70 même.
Ah non, les années 70.
Moi, je dirais plutôt deuxième partie des années 70.
Bon, Josiane va vous donner quelques indices alors.
La mort de Maria Callas.
Alors ça...
Pour les champions,
Monsieur Aubert est humaniste, pas artiste a priori.
J'aime bien la musique, mais ce que je retiens, c'est la musique, c'est pas les dates.
Humaniste, quelque chose qui aurait pu vous frapper à l'époque, c'était l'affaire du Larzac. L'extension
du camp
militaire, c'était l'année où ça
ça fait remonter le temps quand même. Le Larzac. Ouais. Ah oui, alors ça c'est peut-être avant 75 alors. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là?
Et alors, en dehors du Larzac, sur Paris, l'inauguration du Centre Pompidou.
Et sur Paris, la création du RER.
Voilà.
Oui, tout à fait. Non, sans blague.
Mmh. Et oui, c'était à cette époque-là.
Pompidou,
le Centre Pompidou.
Oui, le Centre Pompidou.
Qui a tant fait parler de lui à l'époque.
Oui. Alors, Pompidou. C'était révolutionnaire au niveau.
C'est sûr. Pompidou, c'est sûr que c'est avant 75.
Rien à voir, Pompidou, avec Brigitte Bardot, Marilyn Monroe.
Non, c'est pas ça.
Ouais. Alors, oui, parce que figurez-vous que j'y suis allé. J'étais jeune travailleur et j'y allais le soir après le boulot.
C'est intéressant.
Le Centre Pompidou était créé quand même à ce moment-là quand j'y suis allé. Ça devait être dans les années 76-77 maximum.
On est pas mal alors.
Ça se rapproche bien là.
Donc, ça me parle.
Un autre événement qui peut peut-être vous mettre sur la voie, c'était le premier vol du Concorde.
On se rapproche, on resserre les taux là. Mais probablement défunts profs d'histoire doivent se retourner dans leur tombe parce que moi, les dates, j'ai jamais été à part Marignan.
1515,
ça remonte un peu trop loin.
Ça me rappelle un sketch.
Moi, j'ai une autre indication qui peut. Vous qui étiez jeune actif, apparemment, c'est la première édition du Printemps de Bourges.
Je ne l'avais pas celle-là.
Et le Printemps de Bourges, c'était pratiquement un rite initiatoire.
Absolument.
Pour un jeune d'aller découvrir ce qui se faisait de mieux en musique et tout ce qu'il y avait à côté aussi. Hein. C'était une bonne ambiance.
Ouais.
Période-là.
Ouais. C'était l'époque aussi où Jacques Chirac a été élu maire de Paris.
Oui. Allez, moi je donne deux derniers indices et puis après on va pas faire poireauter monsieur Aubert plus longtemps parce
peut-être
que là.
Jacques Chirac Paris, il était premier ministre de Giscard en 74. Il a fait 2 ans avant que ça brouille. Donc il s'est libéré en 76. Alors il a peut-être pas été. Alors maintenant faut remonter le temps. C'est tous les cinq ans. Mairie, 6 ans, oui, 5 ans. Il faut remonter le temps, là. 76, peut-être pas tout de suite. 77, allez, je sais pas. Ouais.
Bien vu, monsieur Aubert.
Parfait.
Moi, j'avais comme autre indice la création de Star Wars.
Le premier.
Et puis la création aussi d'Apple. Voilà, un ordinateur grand public. C'était en 1977.
Et ben voilà.
Aujourd'hui, on ne saurait pas trop comment faire sans.
Et pour les gens qui écoutaient beaucoup la radio, c'était le début des grosses têtes.
Et voilà.
Il y avait une chanson aussi qui a perduré très longtemps, c'était la dernière séance d'Eddie Mitchell.
On écoutera dans quelques instants.
Oui, c'était même une émission, c'est devenu même une émission de télé, Ciné-Club.
Après, mais déjà sa chanson annonçait la fin des petites salles de banlieue.
Tout à fait. Hein.
Je vous propose tout de suite d'écouter, moi, justement, la chronique de Jean-Jacques sur le miel. C'est quelque chose qui nous est précieux, qui nous nourrit, qui nous fait plaisir, qui, voilà. On l'écoute immédiatement et on en parle tout de suite après.
Vous aussi, vous aimez tartiner votre pain d'un peu de miel le matin? Quoi de plus réconfortant et de plus naturel? Enfin, naturel, ça dépend. Le miel, mensonge sur les étiquettes? À Que Choisir, nous avons analysé 40 miels de l'acacia, du châtaignier, du toute fleur, du premier prix et du haut de gamme. Sur ces 40 miels, 7, soit près de 1 sur 6, présentaient des traces de sucre ajouté, alors que c'est interdit. Un signe de fraude? Ce sucre peut avoir deux origines. Soit le miel est volontairement dilué dans du sirop afin de faire des économies, soit les apiculteurs utilisent ce même sirop pour nourrir leurs abeilles, mais sans respecter les règles de base censées garantir au consommateur qu'il n'en retrouvera pas ensuite dans le miel. Évidemment, les apiculteurs mis en cause par notre test préfèrent invoquer la seconde hypothèse, celle de l'accident plutôt que de la fraude. Pourtant, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que le sirop n'était pas présent dans tous les produits de la même manière. En particulier, 2 miels d'origine chinoise sur 3 étaient concernés, ce qui corrobore des accusations fréquentes à l'encontre de ce pays. Donc, la production de miel a augmenté de manière étonnamment rapide ces 20 dernières années et se vend à des prix extraordinairement bas. Quels autres pays sont concernés ? Un autre produit concerné, ça n'étonnera personne, était un mélange d'iscout, de miel venant de tout un tas de pays. mais il y avait aussi deux miels français vendus en circuit court sur Internet. Un miel bio, d'origine italienne, et même un miel australien très cher. Il semble donc qu'aucun type de produit ne soit épargné. Est-ce le seul problème ? Non. Plusieurs miels mentaient sur leur nature ou sur leur origine. Deux références se prétendaient d'acacia alors qu'elles ne l'étaient pas. Un miel se disait hongrois alors que l'on y retrouvait aussi des traces de pollen du bassin méditerranéen. Et un dernier miel se prétendant roumain pourrait en réalité venir d'Ukraine, un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne. Les industriels, en faisant passer leurs produits pour roumains, pourraient ainsi éviter certains contrôles et taxes à l'importation. Comment éviter les fraudes ? Si notre enquête suggère que certaines origines sont plus sujettes à la fraude que d'autres, à l'inverse, on peut noter que parmi les 9 miels français vendus en grande surface que nous avons analysés, aucun ne présentait de signes de fraude, ce qui invite plutôt à la confiance vis-à-vis de ces produits. Vous pouvez retrouver tous les résultats de notre test de miel dans le numéro de novembre de Que Choisir et sur quechoisir.org.
Ça t'inspire, Josiane ?
Ben, disons qu'on a un ami qui est apiculteur, enfin pas que apiculteur, mais il a beaucoup de ruches vers les Préalpes et tout. Et il nous disait qu'au mois de septembre, il allait rapatrier ses ruches pas trop loin de chez lui, parce qu'il allait falloir qu'il leur donne du sirop et tout ça. Elles ont manqué de fleurs, parce que la floraison a été beaucoup plus précoce que prévu, et au moment où elles en auraient profité, elles pouvaient pas, quoi. Et elles ont pas de quoi se nourrir elles-mêmes. C'était vraiment catastrophique cette année-là.
Le fait est que les apiculteurs ont beaucoup souffert ces deux dernières décennies, et effectivement les produits phytosanitaires ont été en cause, mais je veux dire, c'est certainement pas la seule cause environnementale qui explique le drame.
Bah, sans compter les espèces de bourdons, je sais pas quoi, qui les détruit et tout ça.
Mais c'est effectivement, il y a l'aspect phytosanitaire par rapport à la vie des abeilles, mais ce que disait Josiane, c'est très, très, très juste. Il faut les nourrir. Pour produire du miel, il leur faut de la nourriture. Et cette nourriture-là, elle est très dépendante des conditions météo, agronomiques, de l'environnement. Et il suffit d'une année comme cette année qui est qui produit moins généreuse. Et puis, et après, les producteurs qui sont. Alors, il y a les bénévoles, les amateurs, excusez-moi, c'est des formations professionnelles.
Ils peuvent aimer le miel aussi.
Mais donc, il y a les amateurs, mais il y a aussi les professionnels. Qui ont derrière des exigences économiques importantes, et voilà, qui sont tentés de trouver des solutions.
Après, je pense que ce que dénonce l'UFC Que Choisir, c'est surtout la tromperie.
C'est le commerce.
Il y a un truc qui m'a interpellé dans ce qu'a dit Jean-Jacques, c'est la notion de circuit court, vente en ligne. Non, on n'est plus sur de la vente du circuit court quand on vend sur Internet. On peut vendre à l'autre bout de la planète. Et d'ailleurs, il parle très bien du miel australien à un prix d'or.
Ou l'Ukraine, là, qui...
Donc, nous, consommateurs, comment on peut résoudre ça ? Eh bien, on n'a pas de baguette magique, hein. On peut se faire abuser comme beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut privilégier l'achat de proximité, peut-être.
Sachant qu'il faut être sur le miel, il faut être prudent, parce que vu l'enquête de l'UFC Que Choisir, et je pense que il y a un gros décalage entre l'attente qu'on a sur ce produit qui est très noble pour la santé, qu'on valorise, et puis justement les produits qu'on a à disposition, sachant qu'on est déficitaire en France d'une manière très conséquente, et après le relais est pris par le business, faut l'appeler carrément du direct.
Pour revenir sur ce que tu disais, Marc, c'est vrai qu'aujourd'hui la nature elle fournit pas des doses standards, et donc d'une année sur l'autre il y a des variations, et finalement notre problème, est-ce que c'est la production du miel ou est-ce que c'est notre consommation ? On n'est pas calé avec la nature, et il faut accepter aussi d'avoir des différences d'année en année.
Le problème, c'est, comme disait Marc, c'est le revenu de l'apiculteur. C'est le problème de l'agriculture en général. Quand une année noire, ils ont du mal à s'en sortir.
Oui, si le miel est une activité accessoire et qu'ils ont... Bon, ça c'est... Ça mais quand ils ne vivent que de ça...
J'ai tendance à penser que la rareté fait le prix aussi.
Oui, bien sûr.
Il y a un moment, il faut que le consommateur il paye le juste prix. Et aujourd'hui, il y a des gens que ça ne dérange pas d'aller mettre des sommes folles dans des produits électroniques qui sont en tension aussi actuellement. Et bizarrement, ils ne vont pas vouloir mettre un euro de plus dans le pot de miel qu'ils vont acheter de la même semaine.
Ou ils vont acheter du miel qui vient de l'autre bout de la planète. Je ne dirais pas que c'est du snobisme, il est certainement très bon, mais quand même.
Ah ben, tu vas voir aussi au niveau des produits de beauté, avec l'engouement qu'on a pour le miel, tu as les shampoings au miel, tu as les crèmes au miel, les machins. Enfin, c'est vraiment. Alors. Je me demande comment ils arrivent à provisionner tout ça, quoi.
En tout cas, moi, ce que maintenant je l'achète à mon fils, hein, parce qu'il a une dizaine de ruches. Mais avant, c'est vraiment sur le linéaire du supermarché. C'était l'endroit où je prenais le plus de temps pour choisir, parce qu'effectivement, à partir de ces enquêtes comme FC Que Choisir, on devient quand même méfiant. Enfin, je pense, sachant que c'est un produit noble, tant qu'à faire, autant acheter quelque chose de bien et peut-être y mettre le prix, comme tu disais, Raphaël.
Alors, Marc, j'ai aussi un beau-frère apiculteur amateur, et le fait est que ce que je constate, c'est que d'une année sur l'autre, les miels ne se ressemblent pas, et donc la standardisation industrielle aujourd'hui. Fait miroiter aux consommateurs que nous sommes que les choses vont bien toutes seules et que c'est pas un problème.
C'est pas produit par une machine, c'est produit par des abeilles qui sont des êtres vivants qui vivent dans un milieu, dans un contexte, et donc avec les forces et les limites.
Voilà. Et suivant les fleurs, le miel n'a pas du tout le même goût.
Bien sûr.
Moi qui aime bien les miels plutôt corsés. Mon apiculteur me dit c'est celui-là qu'il vous faut, voilà. Et il a une dizaine de variétés. Je sais pas comment il fait d'ailleurs, comment il sait que les abeilles sont allées sur l'acacia ou sur le châtaignier. Enfin, bon.
En principe, il met quand même les ruches
là où il faut.
Voilà.
Elles font 2 km, je crois, les abeilles. Donc, ils savent à peu près d'où ça vient.
Elles ont un système de communication extraordinaire.
Mais il y a des différences de goût qui sont extraordinaires. Oui.
Je vous propose de faire une nouvelle petite pause musicale. On va pas avoir le temps de tout traiter cette semaine. J'ai l'impression qu'on va en remettre pour la prochaine émission.
On
écoute immédiatement Eddie Mitchell avec La Dernière Séance. À tout de suite.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nous. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais. À 5h j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les filles qui tremblaient. Glacé, glacé. séquence. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
C'était donc Eddie Mitchell avec la dernière séance. Alors, tu avais une anecdote bien sympathique, Marc, à nous relater.
Et oui, parce que ça me fait penser, cette dernière séance, ça me fait penser au superbe western qui était proposé dans le cadre de cette émission. Et il se trouve qu'au cours de l'année 1977, il y a un célèbre réalisateur de western qui s'appelle Howard Hawks. Il n'a pas fait que des westerns, mais en partie des beaux westerns comme Rio Lobo, Rio Bravo. Eh bien, figurez-vous que Howard Hawks, son deuxième prénom, c'est Winchester. Donc, c'est Howard Winchester Hawks, oui. Né dans l'Indiana.
Les bandits n'avaient qu'à bien se tenir. Bon, avant de nous quitter, j'avais quand même une petite rubrique qu'on expérimente cette année, c'est le pour ou contre. Et comme disait Coluche, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Et donc, le thème de la semaine, c'était pour ou contre le changement d'heure. Bon. Qu'en dites-vous les uns et les autres ?
Moi, je suis contre. Je suis contre, contre et contre. Et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire évoluer cette problématique de changement d'heure. Personnellement, moi, je constate que pratiquement 3 semaines à me re-régler dans un sens ou dans un autre. J'en parle autour de moi, personnes me disent non, ça, il ne se passe rien, et je les trouve quand même très très fatigués. Donc voilà, le mot n'est pas la chose. En tout cas, j'espère qu'un jour on va trouver une solution.
Alors, nous ne sommes pas chronobiologistes, hein, donc ça va être difficile d'argumenter effectivement sur le sujet. Mais par contre, effectivement, une question bête que je me pose, c'est pourquoi on ne vit pas tout simplement au rythme du soleil ? Parce qu'on est toujours finalement décalé d'une heure ou de 2 heures.
Et... Ah ben moi, je me souviens d'avoir entendu des agriculteurs qui étaient épouvantablement contre, avec tous les problèmes. Les animaux ne s'adaptent pas éventuellement comme nous. Oui. Hein, ils ont des rythmes particuliers. Et c'est pas l'histoire de les... Ben, moi, avec le changement d'heure, je vais pas réussir à dire à mon chat, c'est pas le moment. Bon. Attends un peu.
Par contre, je suis désolé, mais c'est pas de votre génération que ça s'est installé, ce changement d'heure. On est dans les années 60. 70, hein.
Ça me semble très lointain.
C'était une idée de Giscard d'Estaing, ce qu'on avait cru comprendre à l'époque. Pour des raisons de maîtrise du choc pétrolier, enfin, ça devait apporter des possibilités d'économie.
C'est européen ce truc-là ?
C'est devenu européen. C'est devenu européen et apparemment, tout le monde n'est pas d'accord sur si on revient dans un sens ou dans un autre. C'est le choix de l'heure qui pose problème. Qui poserait
ou d'été
problème.
Ou d'hiver, mais qu'ils arrêtent de nous balader comme ça.
Et donc voilà, c'est derrière, c'est quand même un enjeu de santé. Et santé aussi bien des êtres humains que tous les êtres vivants. Des animaux. Bien sûr.
Alors, selon le site ConsoGlobe, que je cite parce que je n'ai pas fait beaucoup de recherches pour cette rubrique, mais c'est un Américain qui a créé ce changement d'heure, Benjamin Franklin.
Voilà. Ah bon ?
Oui, et en fait, ça a été instauré en France en 73-74. J'ai pas lu beaucoup de chiffres, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'en 2009, grâce au changement d'heure, il aurait été fait une économie de 440 gigawatts. Et la même économie 10 ans plus tard était plutôt de 330 gigawatts. Et donc, effectivement, aujourd'hui, encore une fois, on est toujours dans une logique de consommation et non pas de réduction de la consommation. L'énergie, ça coûte cher à produire. On nous le vend bien cher en ce moment. Et finalement, il suffirait de consommer moins pour produire moins. Monsieur Aubert, vous n'êtes pas positionné sur le changement d'heure. J'ai l'impression que vous êtes un pro qui n'osait pas nous le dire.
Non, pas du tout. Non. Il faut se souvenir que quand ça a été créé, alors je n'avais pas l'année. J'aurais dit 77, donc, parce que je me dis, tiens, il y a un truc là. Bon. Mais en fait, c'était bien pour des histoires d'économie d'énergie. Parce que pour que les lampes restent moins longtemps allumées. Et je crois qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'avec les nouvelles ampoules, là, les nouveaux les appareils électriques qui sont quand même mieux isolés, etc. Alors, il y a plus d'ordinateurs et tout ça. Bon, d'accord. Mais voilà.
Mais la consommation globale par individu a réduit.
Ah, ça, je suis pas sûr. Si ?
Si, il semblerait que oui, mais par contre, le problème, c'est qu'on a augmenté la population mondiale.
Oui, et français.
Ça se compense forcément dans le bon sens.
Je crois que les enjeux énergétiques ont diminué par rapport à il y a 40 ans. Il faudrait bien voir. On demande beaucoup l'avis des scientifiques médecins pour la pandémie, mais pour le changement d'heure, on ne leur demande pas beaucoup.
On n'en tient pas compte.
Donc moi, j'attends d'entendre les médecins.
Les arguments des uns des autres.
Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est moins nécessaire qu'il y a 40 ans.
Bon, ça aurait été un court débat pour ou contre cette semaine, désolé. On va se retrouver dans 15 jours pour votre émission favorite, Il est l'heure, Monseigneur. Je vous remercie, Monsieur Aubert, d'avoir pris le temps de nous expliquer ce que vous faisiez.
Merci à vous, surtout, oui.
Et puis, écoutez, j'espère que cette émission va amener des auditeurs vers vous pour que vous puissiez opérer au mieux pour les personnes qui en ont besoin et qui sont dans le besoin.
Amener on l'espère aussi. Amener les auditeurs et
les bénévoles. Mmh. Les bénévoles, surtout.
Merci, Josiane.
À votre service.
Merci, Marc. Merci. Monsieur Aubert, longue vie à Habitat et Humanisme.
Oui, malheureusement, je pense qu'on va être utile encore longtemps.
Exactement. Oui. Alors, on a oublié l'essentiel sur notre agenda et on est allé un peu trop vite cette semaine. Donc, j'appelle Monsieur Aubert au téléphone et il va pouvoir nous raconter l'événement qui va être important pour Habitat et Humanisme. Monsieur Aubert, que pouvez-vous nous dire sur l'événement à venir ?
Eh bien, je peux vous dire que ça s'appelle l'Heure solidaire. L'Heure solidaire, c'est une campagne de mobilisation et de sensibilisation proposée par Habitat Humanisme en faveur du logement et de l'insertion des plus démunis. Alors, petit clin d'œil en ce moment, avec l'heure d'hiver, le 31 octobre, on a gagné une heure. Et si on la donnait aux plus démunis ? Une heure, c'est pas beaucoup dans une année. Comme les années précédentes, nous avons des ambassadeurs qui vont donner de leur temps pour partager un moment privilégié avec les personnes logées par Habitat Humanisme. À Angers, ce sera Samuel Albert, chef du restaurant Les Petits Prés et vainqueur de l'émission Top Chef en 2019. Il animera le 5 novembre un atelier pâtisserie dans notre pension de famille Farman, à Angers bien sûr. Merci Samuel.
Merci à vous Monsieur Aubert. Bon, au final, on ne peut pas être totalement contre le changement d'heure.
Ça nous arrange bien, mais on a réfléchi, il y a un jour où ça s'arrêtera peut-être. Apparemment, c'est très laborieux d'arrêter un paquebot pareil. Et on s'est dit, on trouvera autre chose pour organiser l'heure solidaire. Mais on ne laissera pas tomber l'opération. Si vous allez sur le site internet de l'heure solidaire, vous verrez qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs sur toute la France qui donnent un peu de leur temps. Donc ça, il faut qu'on continue. Quoi.
Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.